Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
C'est une histoire de fou que je vous raconte aujourd'hui, au sens propre comme au sens figuré. Elle se déroule en 1978 et 1979 dans le département de l'Oise, au nord de Paris. Pendant des mois, un mystérieux personnage multiplie les agressions. Et puis un jour, il tue. Et il écrit aux enquêteurs « Je suis un tueur et en tant que tel, je vais tuer ». Ce tueur aurait pu être arrêté beaucoup plus tôt si seulement on avait bien voulu écouter les intuitions d'un gendarme et d'un policier, l'inspecteur Daniel Neveu, qui sera là tout à l'heure pour le débrief. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire de fou débute par une série d'événements, disons, intrigants. Et c'est leur accumulation qui va les rendre inquiétants. Top départ. Le 31 mai 1978, à 2h du matin, en forêt de Chantilly, au carrefour d'idées ripailles, une patrouille de gendarmes tombe sur une Peugeot 504 planquée dans un fourré.
« Bon ben, encore une voiture volée, hein ?»«
Volée, oui, c'est une voiture volée. Un imprudent qui avait laissé les clés sur le contact. Mais il n'y a pas que ça. Il y a deux trous dans le pare-brise. » Et sur le siège passager, un mouchoir taché de sang. Et à côté, une cordelette du genre qui sert à attacher quelqu'un. Et sur la banquette arrière, des douilles et un porte-document. Et puis sur le plancher, des papiers de chewing-gum et des bonbons. Et des mégots de gitane, mais pas un, pas deux. Des dizaines de mégots. Et cerise sur le gâteau, dehors près de la voiture, une seringue et un plan. Un plan qui suggère la préparation d'un hold-up. Quelle étrange découverte.
Ça mérite peut-être de réveiller le chef, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Et en l'occurrence, le chef, c'est l'adjudant cavalier, le patron du tout nouveau PSIG de Chantilly, le peloton de surveillance des interventions de la gendarmerie. 18 hommes chargés de patrouiller pour rassurer la population. Ça vient tout juste d'être inventé. C'est tout beau, tout neuf. Et ça vient de tomber sur une belle affaire. Sauf qu'à la fin, c'est rageant, le procureur refile l'enquête à la maison d'en face. La police, la PJ de Creil. Deux mois plus tard, à Pont-Sainte-Maxence, toujours dans l'Oise, nouvel événement a priori sans rapport avec le précédent. Karine, 17 ans, sort du cinéma et elle rentre chez elle à pied. Et là, elle est doublée par une Renault 12 rouge et le conducteur lui tire dessus. Trois fois avant de disparaître. Karine s'en sort bien, une balle lui a traversé la jambe gauche, mais sans faire trop de dégâts. Mais tout de même, c'est une tentative de meurtre.
Bon, la R12 est une voiture volée à un agriculteur de l'Aisne qui avait laissé les clés sur le contact.
Et cette fois-ci, hasard de la roulette du procureur, il décide de confier l'enquête aux gendarmes du coin, ceux de Pont-Sainte-Maxence. Des jours plus tard, un policier qui sait qu'on recherche une Renault 12 rouge en aperçoit une dans le centre de Creil. On ne voit qu'elle, c'est la seule qui est garée côté pair, alors que toutes les autres voitures sont garées côté impair. Il s'approche. Il ouvre la portière passager et la voiture explose et s'embrase. Heureusement, le policier a eu le réflexe de s'écarter. Il n'est que légèrement brûlé. La R12 était piégée. Et là, faites tourner la roulette du procureur. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. C'est le commissariat de Creil qui hérite de l'enquête. Nous voilà donc avec trois affaires qui se déroulent dans un mouchoir de poche et qu'évidemment, pour l'instant, rien ne relie entre elles. Et au passage, vous noterez que chacune de ces trois affaires est traitée par un service d'enquête différent, le commissariat de Creil, la PJ de Creil et la gendarmerie de Pont-Sainte-Maxence. Disons que ce ne sont pas des circonstances favorables. Il eût mieux valu que la roulette du procureur confie ses trois enquêtes au même service. Mais que voulez-vous ? Il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir que ces trois affaires avaient un lien. Et elles en ont un. Ce qui va permettre de relier ces trois enquêtes, c'est une lettre. Une lettre anonyme envoyée au mois d'août suivant au commissariat de Creil. Je vous la lis. Cette lettre est écrite afin de vous fournir quelques précisions sur la Renault 12 rouge immatriculée 1303 QG02. Ça, c'est la voiture piégée. D'ailleurs, la carte grise est jointe au courrier. L'auteur dit que c'est lui qui l'a piégée. Le policier n'aurait pas dû entrer dans cette voiture sans prendre de précautions. Ah ça, tu l'as dit, Bouffi. Continuons. Une jeune fille de 17 ans qui déambule provocamment la nuit est une cible que j'affectionne. Elle n'aurait jamais dû rentrer seule. Karine, c'est lui aussi qui a tiré sur Karine à Pont-Sainte-Maxence. Et dans la lettre, il ajoute qu'il dispose encore de 3 voitures piégées. Avant de terminer par cette menace, « Je suis un tueur et en tant que tel, je vais tuer. La prochaine fois, je viserai le cœur. » Eh ben, dis donc, on a l'air d'avoir affaire à un sacré tordu. Après avoir tourné et retourné cette lettre dans tous les sens, le patron du commissariat de Creil a la bonne idée de la photocopier et de la faire passer autour de lui dans son service et même au-delà. Et c'est comme ça que cette lettre anonyme échoue dans les mains de l'inspecteur Daniel Neveu de la police judiciaire de Creil. Dans son service, Neveu, on l'appelle Maigret, à cause de son flair. Il y a quelques mois, c'est lui qui a permis l'arrestation du tueur de l'Oise, Marcel Barbeau. Je vous ai raconté cette histoire. Et Neveu, quand il reçoit la copie de la lettre anonyme, il ne la colle pas dans une bannette comme le font tant de ses collègues. Sur le tas des choses à voir plus tard, quand on aura le temps, et on ne l'a jamais, il se la coltine tout de suite, à la Neveu. C'est-à-dire qu'il pose la lettre par terre dans son bureau et à côté, tous les documents manuscrits des différents dossiers en cours. Et lui, à genoux, il compare, il rapproche, il écarte, à genoux, sur le parquet de son burlingue. Et là, bingo, le plan en vue d'un hold-up qu'on avait retrouvé près de la 504 au carrefour des Ripailles, vous savez, la 504 avec ses deux impacts de balles dans le pare-brise et son mouchoir ensanglanté, c'est la même écriture que la lettre anonyme. C'est le même bonhomme qui a tiré sur Karine, piégé la voiture et abandonné cette 504. Bravo, inspecteur Neveu. Mais c'est pas tout. L'inspecteur Neveu, en lisant cette lettre, a une intuition de génie. De génie. Car Neveu, voyez-vous, est un flic d'avant l'ADN. Un flic qui gamberge pendant des heures. Et là, à la lecture de cette lettre anonyme, il a une intuition. Une intuition qui n'est pas facile à formuler, hein, quand on est inspecteur de police à la police judiciaire. Oh, le type qui a écrit cette lettre. C'est un flic, hein. C'est un flic ou un gendarme. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que les policiers et les gendarmes, quand ils écrivent des rapports, ont en commun un style, comment dire, inimitable. Par exemple, quand ils doivent décrire une voiture, ils citent dans l'ordre la marque, le modèle, la couleur, l'immatriculation et le kilométrage. Dans l'ordre. Et comme par hasard, dans la lettre anonyme, c'est dans l'ordre. Et puis un gendarme et un policier, quand ça parle voiture, ça ne parle pas comme nous. Ça dit véhicule, ça dit habitacle, ça dit portière verrouillée. Et donc, en raison du vocabulaire et de la formulation de cette lettre anonyme, Neveu a l'intuition qu'elle a été écrite par un collègue. Une chose est de le penser, une autre chose est de le dire. Fidèle à sa réputation de Maigret de l'Oise, Neveu en parle d'abord à sa femme et il lui montre la lettre. Et vous savez ce que dit sa femme ? Ah ben c'est une lettre de gendarme, ça.
Quand ils viennent me voir en magasin pour les chèques volés, ils écrivent tous comme ça. Eh oui, avec son style empoulé, sa ponctuation impeccable et son orthographe exemplaire, l'écriture gendarmesque est inimitable. Comme dit sa femme, oh ben, rien à voir avec les torchons de tes collègues. Donc, l'auteur de la lettre serait plutôt un gendarme ou un policier, mais plutôt un gendarme. Mais comment voulez-vous faire passer une idée pareille à votre hiérarchie et à la juge d'instruction? Il a beau être le Maigret de l'Oise, neveu, c'est pas facile. Alors il décide d'envoyer une note confidentielle au patron du service régional de police judiciaire. « Je crois opportun de mener une enquête discrète au sein des services de police et de gendarmerie. » La hiérarchie lui répond que son hypothèse est incertaine et qu'une enquête au sein des forces de l'ordre serait inopportune. Alors qu'est-ce qu'il fait, l'inspecteur Neveu, à ce moment-là? Ah ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il la remet dans sa culotte, comme on dit. C'est-à-dire qu'il passe à autre chose. Il lâche l'affaire. Mais quelle bande de nazes! Fallait l'écouter, Neveu! Cela dit, il y a d'autres pistes que la lettre anonyme a explorées. Celui qui a volé la Renault 12 a aussi volé un chéquier. Et il s'en est servi beaucoup. 21 chèques utilisés aux quatre coins du département. La police judiciaire décide d'interroger un à un tous les commerçants qui ont encaissé ces chèques. L'homme leur a tellement inspiré confiance qu'aucun n'a eu l'idée de lui demander ses papiers. Mais ils se souviennent de lui. Et un portrait se dessine.
Oh, ben dans mon souvenir, c'est un homme jeune, hein, très poli, très propre, quoi, bien habillé, genre militaire, vous voyez.
Tiens, tiens. Intéressante aussi, l'analyse balistique qui permet de dire quelle arme a été utilisée contre Karine.
Alors, le tireur a utilisé un Beretta 9 mm, hein, court. C'est une arme assez rare, hein, et... Elle est surtout prisée par les collectionneurs et les militaires. Hein.
Tiens, tiens, tiens. Mais personne ne fait le rapprochement. Il n'en a parlé à personne, l'inspecteur Neveu. Sauf à sa femme. Et son rapport est resté confidentiel. Et puis, pendant 3 mois, il ne se passe rien. Pas de nouveaux crimes. Enquête au point mort. Mais ça reprend en novembre 78. Et là, les amis, ça enchaîne grave. Le 16, à Saint-James, toujours dans l'Oise, un homme au volant d'une Peugeot 504 vient percuter une jeune cycliste. D'un coup de volant, il la balance sur le trottoir. Elle se relève, elle hurle. « Au secours! Au secours !» Les gens autour se précipitent, mais le gars s'est enfui. Deux jours plus tard, le 18 novembre, les gendarmes de Chantilly retrouvent la 504 sur le parking de la gare d'Ory. Un gendarme s'approche, il ouvre la portière. La voiture était piégée, mais le gendarme s'en sort avec quelques brûlures légères. Et à qui croyez-vous que le procureur confie l'enquête? À la police! Ah ben logique, puisque la victime est un gendarme. Alors que les gendarmes dans cette affaire ont un compte à régler. Et d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gendarmes vont mener leur petite enquête en parallèle. Normal. C'est le capitaine Pinault qui prend les choses en main. Lui, son petit nom, c'est pas Maigret, c'est Colombo. Et bien sûr, il n'a pas accès à toutes les pièces. Les policiers gardent les bonnes infos pour eux. C'est la guerre des polices. Un gâchis. Et le capitaine Pinault s'intéresse à une affaire qui, jusqu'ici, n'a pas été reliée aux autres. Un hold-up commis à la poste de Sénarpont. Et ce qui le titille dans ce dossier, c'est qu'après le braquage, le malfaiteur a pris la fuite au volant d'une voiture volée,
dont le propriétaire avait laissé les clés sur le contact, comme la Renault 12. Ce qui est ballot dans cette histoire, c'est qu'au même moment, les policiers sont sur la même piste. Eux aussi s'intéressent à ce hold-up. Mais ils ont un coup d'avance. À la poste, ils ont trouvé une empreinte qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une autre empreinte retrouvée, elle, dans la 504 criblée de balles. Le hold-up de la poste, la 504 abandonnée au carrefour de la Ripaille avec ses deux impacts de balles et la R12 qui canarde Karine et explosant ensuite à la gueule d'un gendarme, c'est le même homme. C'est l'homme de la lettre anonyme. Et reconnaissez qu'il est rageant de voir le capitaine Pinault de la gendarmerie s'acharner sur une piste déjà explorée avec succès par la police. Quel gâchis! Quel gâchis, d'autant que ça lui laisse du temps à l'autre. Un temps d'avance. Et il va bien en profiter. Il avait dit « La prochaine fois, je viserai le cœur ». Eh bien, il tient parole. Le 1er décembre 1978, à Chantilly, on retrouve au bord de la route une gamine de 19 ans, Yolande, criblée de balles, dont une balle en plein cœur. Mais elle n'est pas morte, et avant de mourir, Yolande a le temps de raconter ce qui lui est arrivé.
« C'est un jeune homme. Il m'a pris en stop à Pont-Saint-Maxence. À un moment... Il a arrêté la voiture et il m'a dit « Je vais vous faire mal ». Et là, il m'a tiré dessus.
Les secours ne vont pas tarder à arriver, mademoiselle. Il était comment, ce monsieur ?
La trentaine, bien habillé, très poli.
Les balisticiens identifient l'arme. C'est un Beretta 9 mm. Et la voiture, elle a été volée avec les clés sur le contact. C'est le même salaud. C'est le même taré. Avec la mort de la jeune Yolande, évidemment, l'enquête change de braquet. Quand on fait l'addition, le type est passé à l'acte 17 fois en 7 mois. Et la dernière fois, c'était pour tuer. Donc, finit la guéguerre entre la police et la gendarmerie. Il était temps.
À partir de maintenant, plus de cachotterie, d'accord ? On met les informations en commun, d'accord ? On se parle, d'accord ? Et on prévient, d'accord ?
Eh ben, il était temps. Et c'est comme ça que le capitaine Pinault de la gendarmerie a accès pour la première fois à la lettre anonyme. Il la lit une fois, deux fois. Et là, il dit
« À mon avis, ça sent le gendarme, ça. La formulation, tout ça. Oui, c'est un gendarme. »
C'est dingue. Il arrive aux mêmes conclusions que l'inspecteur neveu de la police il y a 4 mois. Le style de la lettre est gendarmesque. Que de temps perdu. Décidément, cette enquête est un modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Cela dit, le capitaine Pinault, une fois qu'il est arrivé à cette conclusion, se trouve dans la même situation que l'inspecteur Neveu. En pire, il est censé expliquer à sa hiérarchie qu'à son avis, le tueur est un gendarme. Coton ! Alors il y va mollo. Il commence par tâter le terrain discrètement auprès de ses collègues et de quelques supérieurs.
« Un gendarme ! Mais vous délirez complètement, Pinault. Un gendarme ! Oui, chef, un gendarme. Je me dis que peut-être on pourrait prendre les empreintes digitales de tous les gendarmes du coin, puisqu'on a une empreinte dans le dossier. Les empreintes de tous les gendarmes. Mais enfin, Pinault, vous êtes devenu fou. Alors... peut-être pourrait-on contrôler les emplois du temps des uns et des autres, pour savoir qui était en service ou qui ne l'était pas au moment des crimes.
Oh, Pinot. Pinot, vous êtes inénarrable. Bon, vérifions les emplois du temps, si vous voulez. Mais la vérification est un peu mollasse. Et bien sûr, elle ne donne rien. Et pendant ce temps-là, le maniaque de l'Oise, comme l'appelle désormais la presse, court toujours. Le 29 décembre, près de Compiègne, un automobiliste voit juste devant lui quelque chose tomber d'une voiture, une 504 verte. Mais c'est quoi ça, putain ? Il s'arrête. C'est une jeune fille de 19 ans. L'autre vient de la balancer par la portière. Elle est grièvement blessée, elle a reçu 3 balles. Elle va survivre, mais elle restera tout de même paralysée. Tout de suite, les gendarmes installent des barrages dans tout le département.
Alerte à toutes les unités. On recherche une conduite intérieure de marque Peugeot, modèle 504 de couleur verte.
On va le coincer. C'est sûr, cette fois, on va le coincer. Enfin, c'est sûr, ou pas. Parce que vers 14h, la 504 se présente face à un barrage. Elle fonce dessus, mais elle arrive à passer. Une course-poursuite s'engage. Mais pas de chance, les gendarmes se trouvent coincés à un passage à niveau. Et quand la barrière finalement se lève, ils retrouvent la voiture embourbée, mais vide. On mobilise un hélicoptère, des chiens, mais la nuit tombe et il faut se rendre à l'évidence. Il a disparu, volatilisé. Mais quelle guigne cette enquête, mais quelle guigne ! Le 31 décembre, à quelques heures de la ripaille générale, pour la première fois, un journaliste ose évoquer publiquement la piste d'un gendarme ou d'un policier, le correspondant de l'agence France-Presse. Évidemment, c'est l'inspecteur neveu de la PJ et le capitaine Pinot de la gendarmerie qui sont des copains qui lui ont filé le tuyau. Mais la réponse de la hiérarchie est cinglante. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Cette thèse ne correspond à rien. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et c'est à ce moment-là qu'arrive une deuxième lettre anonyme. « Je n'ai rien à perdre. Je vais le prouver. Je vais tuer d'autres filles en leur faisant éclater la tête. Et si j'arrive à conserver le corps d'une fille, je le découperai et j'en sèmerai les morceaux dans les villes. » Ce type est un grand malade. Et dans cette lettre, le tueur met aussi les enquêteurs sur 2 fausses pistes. « J'ai perdu ma femme dans un accident de la route et j'ai fait la guerre en Afrique. » Ça va un peu occuper les policiers et les gendarmes, ça. En pure perte, bien sûr. Heureusement, début mars, le tueur commet sa première faute et sa dernière. Il vole une voiture en région parisienne et sur l'autoroute en remontant vers l'Oise, il tombe en panne. Sans se démonter, il demande de l'aide à 2 motards de la police, des CRS. C'est gonflé, ça. Il attend la dépanneuse et une fois arrivé au garage, il disparaît. Sauf que les CRS l'ont vu. Et ils sont capables de dresser un portrait robot très précis. Et quand ils voient le portrait robot, un gendarme, qui est l'adjoint de Pinot, le reconnaît tout de suite. Oh nom de Dieu ! Mais c'est Lamar ! Lamar, Alain Lamar. Il le connaît bien forcément, c'est un jeune gendarme de 22 ans qui a travaillé sous ses ordres jusqu'à l'année dernière. Et qui depuis a été muté à Chantilly. Le gendarme Lamar, ça serait donc lui? Il en parle immédiatement au capitaine Pinot, lequel appelle tout de suite le patron du psych de Chantilly, l'adjudant Cavalier, qui tombe de l'étagère.
Lamar, vous me dites? Mais c'est mon meilleur enquêteur. Enfin, c'est lui qui a trouvé les voitures à chaque fois. Il s'est passionné pour cette enquête.
Tu m'étonnes qu'il s'est passionné. Cavalier vérifie l'emploi du temps de son gendarme. Au moment de chacun des crimes, Lamar n'était pas en service. Parallèlement, le capitaine Pinot prévient ses chefs,
et il apprend que Lamarre est actuellement en patrouille et lourdement armé.
Appel à toutes les voitures. Retour immédiat de tous les véhicules de patrouille à la caserne pour briefing urgent. Je répète, retour immédiat de toutes les patrouilles à la caserne.
Un quart d'heure plus tard, le break dans lequel patrouille Lamarre arrive dans la cour de la caserne. Lamarre en descend avec un pistolet mitrailleur à la main.
Hé Lamarre, tu vas à la guerre ou quoi? Allez, dépose ton artillerie et monte au briefing. On t'attend.
Lamarre s'exécute. Cavalier le suit. Et dès son entrée dans le bureau, il le ceinture et il le menotte. On prend ses empreintes digitales parce que bien sûr on a encore un doute. Et ça match. Le tueur était donc bien un gendarme. Et le voilà menotté à une chaise, devant ses chefs, effarés.
Alors c'est toi, putain? C'était toi?
Il y a même des gendarmes qui pleurent l'honneur sali de la gendarmerie. Et lui, sur sa chaise, il ne trouve rien à dire que...
Tout cela est fondamentalement ridicule.
La suite est assez pitoyable. Un général de la gendarmerie déboule dans le bureau avec en main une lettre de démission. Le gendarme Lamarre est prié de démissionner sur le champ.
Vous pouvez signer, s'il vous plaît.
Et il signe. Enfin, on n'allait quand même pas envoyer un gendarme en exercice aux assises. Pas de ça chez nous. La tête dans le sable. Pitoyable, je vous dis. Ensuite, évidemment, on va chez lui. Perquisition, c'est la règle. Et ce que les gendarmes découvrent chez lui dépasse l'entendement. Dans l'entrée, dans le salon, dans la cuisine, rien d'anormal. Un appartement de célibataire. Mais il y a une porte fermée à clé. Les gendarmes l'enfoncent. Et ce qu'ils découvrent est hallucinant. Au milieu de la pièce, il y a une tente militaire. Et sur les murs, des cartes d'état-major et des photos d'autopsie. Et sur le sol, des armes, des grenades et des munitions. Un cabinet noir. Le côté obscur du gendarme Lamarre. Un peu comme dans cet appartement, il y aurait donc deux Lamarres. Un Lamarre urbain, aimable, bien peigné, bien rangé, comme le salon. Et puis un autre Lamarre, noir, violent, pervers. Comme cette pièce fermée à clé. Le gendarme Lamarre est emmené chez la juge d'instruction. Et comme c'est la règle, elle lui signifie les faits qui lui sont reprochés et elle lui demande ce qu'il a à déclarer. Lamarre parle sans s'arrêter pendant 5 heures. Il reprend tous les crimes, un par un, dans l'ordre, précisément, sans omettre aucun détail. Alors la juge lui pose la question du mobile. Pourquoi ?
Je préfère m'arrêter là.
Après ce premier interrogatoire chez la juge, Lamarre ne parlera plus jamais. Et qu'importe d'ailleurs, puisqu'en vérité il n'y a aucune rationalité dans tous ces crimes, aucune. Et ce sont 4 experts psychiatres qui vont venir le dire. Lamarre est schizophrène. Mieux, il est atteint d'une forme de schizophrénie très rare, l'éboïdophrénie. C'est un malade. Un malade. C'est dur à avaler. Mais il n'y a pas à tergiverser. Il est irresponsable devant la justice. Et donc il ne sera pas jugé. Le juge rend une ordonnance de non-lieu. Et Alain Lamarre est envoyé en hôpital psychiatrique. À l'heure où je vous parle, il y est toujours. Je dis qu'il y est toujours, en vérité, je n'en sais rien, parce que c'est typiquement le genre de dossier dans lequel on n'a jamais ni la suite ni la fin de l'histoire. Pour débriefer cette histoire, qui de mieux que vous, Daniel Neveu, vous étiez donc à l'époque inspecteur à la PJ de Creil, vous avez joué un rôle clé dans cette histoire. Vous êtes rangé des voitures depuis combien de temps, Daniel ?
Écoutez, je suis à la retraite depuis plus de 20 ans.
Ah.
Alors restons deux secondes sur ce moment très frustrant, et bien sûr après on parlera du rôle que vous avez joué. Ce constat qu'on ne peut pas juger Lamar parce qu'il est malade psychiatrique. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce que vous, l'inspecteur Neveu à l'époque, vous encaissez cette décision ?
Assez mal, parce que premièrement il y a eu quand même une multiplication des expertises les unes contredisant les autres, comme cela arrive souvent malheureusement.
En matière de psychiatrie, vous voulez dire ?
Oui. Et je crois que c'est les experts qui l'ont dédouané, si je puis dire, qui ont gagné 3-2, parce qu'il y a eu 5 expertises, je crois.
3 qui disaient oui et 2 qui disaient on peut le juger.
Oui, enfin ils ont gagné 3-2. Quoi.
Bon, c'est un truc peu raconté en France, mais ça existe, la maladie psychiatrique. Et il est un peu normal que ce soit une excuse ou pas ?
Écoutez, moi je ne peux pas me prononcer sur les experts, mais ce qui m'étonne un peu, c'est la multiplicité des expertises. Quand des expertises se contredisent, on peut quand même rester un petit peu
dubitatif
sur sa fin.
Ouais. On va reparler, je le dis, hein, dans un instant du rôle que vous avez joué. La scène de fin dans laquelle un général de la gendarmerie vient chercher la démission de Lamar avant qu'il ne soit inculpé, est pitoyable, on est d'accord ?
Oui, d'ailleurs j'y ai assisté.
Ouais.
Puisque je me suis rendu à la gendarmerie le jour de l'arrestation. Et effectivement, c'était assez pitoyable. Pour la petite histoire, le général en question s'appelait Charlot.
Globalement, comment s'est comportée l'institution de la gendarmerie à l'époque ? Vous diriez quoi, vous ?
Écoutez, quand l'affaire a été résolue, c'est vrai qu'ils ont vraiment pris le coup très très mal. Mais finalement, ils s'en sortent bien puisque la personne intéressée n'a pas été jugée. Mmh. Et qu'au bout du compte, la seule sanction que je connaisse a concerné le chien renifleur.
Pourquoi le chien renifleur ?
Parce qu'il a été mis à la retraite anticipée puisqu'il n'avait rien reniflé.
Cette intuition, donc, elle est nourrie par le style de la lettre. Alors comment est-ce que vous pourriez nous résumer le style gendarmesque ?
Mais il y a déjà la forme, disons, que c'est, la lettre est un papier 21-27, elle est rédigée comme un rapport. Elle s'adresse au commissaire de police de Creil.
Oui.
Elle est même signée, comme tout rapport, il s'agit d'un point d'interrogation, mais c'est quand même une signature. Mmh. Il donne des ordres dans cette lettre, il demande de transmettre, il fait des références véritablement juridiques. Mmh. Vous en avez évoqué quelques-unes. Il y en a beaucoup d'autres, en fait.
Allez-y, parce que j'ai l'impression que vous l'avez sous le nez.
Oui, en fait, par exemple...
Vous avez gardé une copie ?
Bien sûr, parce que c'est quand même des histoires qui marquent. Une fille de 17 ans qui déambule provocamment la nuit est une cible. On croirait lire un article du Code pénal.
Oui, provocamment, j'ai même cherché. Ça n'existe pas, ça, dans le dictionnaire, d'ailleurs.
Une fille de 17 ans, la nuit, c'est l'élément matériel. Qui déambule provocamment, c'est l'élément intentionnel. Et une cible, c'est l'élément légal. Mmh. Le verbe déambuler, c'est une circonstance aggravante. Mmh. On a l'impression que le rédacteur a bien inventé un délit et son excuse légale. Mmh. Mmh. Donc le rédacteur est un pénaliste de métier.
Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Oh, ben, y a l'expression « faire le rapprochement ». Karine ne fera jamais le rapprochement. Or, ça, c'est une expression typiquement policière ou gendarmesque. Mmh. Dans les rapports d'identification, dans les procès-verbaux de synthèse, c'est une expression obligée. Pour toute une série de méfaits qu'on rapproche, qu'on attribue à une même équipe de malfaiteurs.
Vous-même, en tant qu'inspecteur...
Faire un rapprochement, ça ne pouvait être écrit que par un gendarme ou un policier.
Vous-même, en tant qu'inspecteur, vous êtes formaté par ce style à l'époque.
Oui, bien sûr. Oui. Mmh. Tout le monde est à la même enseigne. Hein. Mmh. On est quand même tenu par un vocabulaire, par des expressions. Il dit par exemple aussi le spécialiste de l'identité judiciaire n'a pas relevé les empreintes. Bon, ça, c'est une phrase qu'un malfrat quelconque n'utilisera jamais. Peut-être policier ou gendarme pour utiliser sur leurs expressions.
Surtout en 78-79, où il n'y a pas encore fait entrer l'accusé, il n'y a pas encore des missions d'enquête criminelle, et donc on ne sait pas comment c'est écrit. Quoi.
Absolument.
Alors pourquoi est-ce que vous rédigez une note confidentielle au patron du SRPJ ?
Bah parce que c'était, le passage obligé. Mmh. Vous saviez qu'à l'époque, je pense que c'est toujours la même chose, en fait, il n'y a aucun rapport direct autorisé avec le juge d'instruction.
D'accord.
Tout doit passer par la hiérarchie. Mmh. Et c'est la hiérarchie qui transmet ensuite au juge d'instruction, s'il le juge nécessaire.
Mais vous, je note et que c'est... vous dites que vous demandez une enquête discrète au sein de la police et de la gendarmerie. Pourquoi discrète ?
Bah, discrète parce que il est évident que si l'homme est dangereux et se sait recherché, ça peut dégénérer. Mmh. Ne serait-ce que pour un, oui, un par sécurité.
Mais alors le patron de la PJ, je suppose qu'il vous fait venir dans son bureau pour que vous lui disiez ce qui vous a convaincu.
Il ne m'a jamais convoqué. Il a reçu le rapport, mais il ne m'a jamais convoqué. Je n'ai jamais eu de réponse, en fait, à ma demande.
Aucune réponse. C'est-à-dire aucune. Que, au fond, il y a quelque chose de quoi de familial, c'est-à-dire on ne peut pas envisager, quand on est le patron d'un service de police, qu'un policier ou un gendarme peut être un criminel.
Oui, c'est la première raison. Je pense que ça, personne ne voulait l'envisager. Et puis, il y a une raison, il y a le contexte. Hein. On vient de sortir d'un tueur pendant 7 ans. Il n'est pas question qu'il y ait un nouveau tueur sur le secteur.
Oui, c'est le tueur de l'Oise auquel vous avez contribué. J'ai raconté d'ailleurs votre histoire et le rôle que vous avez joué, qui est aussi très, très intuitif d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour tous ces policiers qui n'ont pas ouvert les yeux et qui les ont plutôt fermés ?
Non, pas à ma connaissance. Je pense que tout un chacun a poursuivi son petit bonhomme de chemin, y compris d'ailleurs le directeur du SRPJ qui n'a jamais donné de réponse à ma demande.
Et vous ? Vous avez une petite promotion pour votre clairvoyance ou pas ?
Écoutez, moi j'ai également poursuivi mon bonhomme de chemin sans avoir eu l'impression d'avoir une promotion quelconque. Bon. La seule chose, c'est que quand j'ai demandé à partir aux Antilles, puisque la PJ devait se créer en Martinique, on a retardé plusieurs années cette création parce qu'il y avait des obstructions en haut lieu en ce qui me concerne.
Sérieux ?
Sérieux, oui.
Parce qu'au fond, vous n'étiez pas dans le moule, pas tout à fait.
Je pense que j'étais un petit peu, oui, considéré comme... pas dans la norme.
Pas formaté.
Pas formaté, voilà.
Alors, il y a aussi l'intuition dans la foulée du capitaine Pinault de la gendarmerie. Vous le connaissez à l'époque, Pinault ?
Oui, je le connais, oui. Ouais. C'est un homme très sympathique, très ouvert. Mmh. Malheureusement, nous n'avons pas communiqué à l'époque, mais... Je savais par l'intermédiaire du journaliste que vous avez évoqué qu'il avait la même intuition que moi.
Ah, c'est le journaliste qui vous le dit ?
Oui.
C'est bien vous qui lui filez le tuyau, on est d'accord ?
Oui, oui, c'est bien. Oui, il était grand temps quand même d'essayer de faire rebondir l'affaire dans la direction que j'aurais souhaité.
Alors je le disais, Daniel Neveu, à cette époque-là, vous êtes donc un flic d'avant l'ADN. Il n'y a pas d'ADN, il y a de la police scientifique, mais elle est souvent réduite aux empreintes digitales. Ma question est la suivante, est-ce qu'autrefois on faisait plus appel à l'intuition, au ressenti, qu'aujourd'hui avec la police scientifique ?
Je pense qu'à l'époque, effectivement, la police à l'ancienne, c'était d'abord et surtout le besoin d'analyse. Mmh. Tout était véritablement passé au crible au niveau de l'analyse des faits. Là, la lettre est assez parlante, à mon avis, pour que l'option qu'elle soit écrite par un gendarme ou un policier soit prise en compte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Est-ce que c'est aussi un exercice plus individuel ? Parce que je raconte la scène où vous posez donc tout par terre dans votre bureau. Ça, je pense que ça ne se ferait plus aujourd'hui. Tout se fait en équipe aujourd'hui. À l'époque, est-ce que, un peu comme dans les films, un peu comme dans Maigret, le flic se retrouvait plus seul, plus livré à ses intuitions intimes ?
Bah, souvent, ça tenait aussi au service auquel vous étiez. C'est-à-dire que...
À l'équipe.
La PJ Gray, c'était, à l'époque, c'était 8 fonctionnaires, hein, dont au moins la moitié en section financière, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 4 inspecteurs qui s'occuperaient des crimes et des délits.
D'accord.
Donc, si vous voulez, on se retrouvait facilement seul.
Ma dernière question, Daniel Neveu, comment on fait pour couper avec ce métier qui, évidemment, vous dévore pendant tout le temps où vous l'exercez et qu'on arrive à la retraite ?
Vous voulez dire qu'est-ce qu'on fait après ?
Ouais.
Bah, après, on écrit un livre, par exemple, comme j'ai déjà fait. Mmh. Et puis, on regarde l'actualité avec un certain détachement.
Mais ça vous dévore, ça vous démange.
C'est sûr que quand on voit ce qui se passe actuellement, il y aurait forcément beaucoup de choses à faire.
Ça donne envie de reprendre du service, vous voulez dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'on est, mis à la retraite un peu précocement à l'époque. Ouais. Hein.
Quel âge, 55, c'est ça?
Moi, j'ai réussi à tenir jusqu'à 58.
Oui. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas le choix, il faut partir.
Oui, en fait, depuis 55 ans, on vous demande quand est-ce que vous partez.
Merci, Daniel. Merci infiniment d'être revenu tant d'années après. Vous vous rendez compte, plus de 30 ans, presque 35 ans, sur cette affaire Lamar. Je vous le redis, vous êtes mou du genou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vois monter lentement le compteur de Twitter, de Facebook, d'Instagram. Bon, on s'y est collé tardivement, je le reconnais, mais il est temps de vous rattraper un peu. Je vous signale aussi que désormais, vous pouvez écouter nos podcasts sur Amazon Music.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Ne partez pas tout de suite. J'ai encore quelque chose à vous dire. Si les affaires criminelles vous intéressent, vous aimez sûrement aussi les séries télé inspirées de faits divers réels comme Le Serpent sur Netflix ou l'histoire du tueur en série Karl Sobrage. Alors je vous recommande l'écoute d'un podcast qui consacre son dernier épisode aux séries True Crime. Le podcast s'appelle Sériland et vous le trouverez sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.